Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de CHIZ 94.3. Ce soir à l'émission, nous recevons Marie-Pierre Bousquet, qui est professeure au département d'anthropologie de l'Université de Montréal et directrice du programme en études autochtones. Elle est spécialiste des questions autochtones canadiennes et s'intéresse principalement aux réalités contemporaines et historiques des Anishinaabeg ou Algonquins du Québec. Elle a publié en 2016 le livre « Les Anishinaabeg, du bois à l'asphalte, le déracinement des Algonquins du Québec » aux éditions du Quartz, dans lequel elle aborde les réalités historiques et contemporaines des Algonquins, chez qui elle a fait des recherches de terrain depuis plus de 20 ans. Elle travaille actuellement sur un projet d'histoire collaborative avec la communauté de Lac-Simon, projet sur lequel on va discuter au cours de l'émission, en fait. Donc, bonsoir, Madame Bousquet. Bienvenue à l'émission.
Bonsoir.
À l'animation, vous êtes avec Myriam et Julie. Bonsoir, Julie.
Bonsoir.
Donc, avant de parler de l'expérience, notamment du passage à la sédentarité des Anishinaabeg et ses répercussions sur les réalités actuelles, question de peut-être introduire un peu notre invité aux auditeurs et aux auditrices. On aimerait peut-être savoir un peu plus, en fait, sur votre expérience personnelle avec les Anishinaabeg.
Ouh, alors ça commence à remonter. Alors déjà, vous dites que je fais des recherches depuis 20 ans. Oui, effectivement, ça fait déjà depuis une vingtaine d'années. Alors, en fait, j'ai commencé mes recherches avec les Premières Nations du Québec quand j'étais en maîtrise. J'ai continué en doctorat et en doctorat, j'ai choisi de m'intéresser particulièrement à la société Anishinaabe, à la culture Anishinaabe, et ça fait depuis mon doctorat. Et je l'ai eu en 2002. Donc voilà, depuis, je continue les recherches sur les Anishinaabeg. J'ai fait d'autres recherches qui ne sont pas uniquement chez eux, mais enfin, globalement, je suis toujours restée très fidèle à mes premières amours.
Puis diriez-vous que, disons, quand comparé, mettons, au début de vos recherches, est-ce que votre rapport peut-être aux populations ou vous, en tant que chercheur, est-ce que ça a évolué quand même au cours des années?
C'est sûr que ça évolue. Déjà, les gens me connaissent mieux que quand j'ai commencé. Ensuite, je suis beaucoup moins jeune, alors je ne fais pas les mêmes sujets. J'ai, par exemple, travaillé au début de ma carrière sur les jeunes Anishinaabeg. Maintenant, j'ai plus du tout le même rapport avec les jeunes, puisque je ne suis plus moi-même considérée comme jeune, même si c'est une catégorie parfaitement arbitraire. Mais il y a aussi les intérêts de recherche qui divergent. Donc, en fait, dans la toute dernière recherche que je suis toujours en train de mener avec la communauté de Lac-Simon particulièrement. Là, c'est une recherche complètement différente parce que c'est eux qui sont venus me chercher et qui m'ont demandé, qui m'ont confié un mandat qui est celle d'écrire l'histoire de la communauté. Et ça, donc, ça change complètement le rapport de recherche parce que là, c'est plus moi qui décide du sujet. Même si je peux m'ajuster aux besoins des gens ou aux désirs des gens, là, c'est vraiment eux qui ont décidé ce que j'allais faire.
Et justement, le projet sur lequel on va pouvoir discuter plus en détail un peu plus loin dans l'émission. Mais avant de poursuivre, justement, on va prendre une courte pause musicale avec une première pièce de l'artiste Zibiwan, en fait Zibiwan Rivers, qui est un jeune producteur et concepteur rythmique Anishinaabe de la Première Nation de Wikwemkung, la prononciation, dans le nord de l'Ontario. En fait, c'est un artiste qui allie la musique électro-expérimentale, le hip-hop et le R&B, avec la culture Anishinaabeg. Et donc, on va écouter la pièce North. Bonne écoute. Thank you. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission avec Marie-Pierre Bousquet sur les Anishinabek. On va commencer par parler peut-être justement d'une partie plus historique, le passage en fait du nomadisme des Anishinabek à la vie sédentaire. Mais on va aussi peut-être aborder pour commencer votre démarche en fait en tant qu'anthropologue justement et chercheur, et comment vous avez fait votre livre en fait, parce qu'il y a quand même des sources, vous prenez des sources orales et des sources écrites également, ce qui permet de mettre de l'avant en fait là, les réalités Anishinabek. Et donc quelles sources en fait sur lesquelles vous vous êtes appuyé, et quelle place en fait ça a dans votre ouvrage?
Alors en fait, mon ouvrage, il est issu de ma thèse de doctorat qui a été évidemment beaucoup remanié pour l'édition et remise à jour, parce que je l'ai publié bien plus tard que le moment où je l'ai soutenu. Donc évidemment, je ne sais pas exactement la même chose. Mm-hmm. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, je voulais faire quelque chose sur le passage à la sédentarité, parce que j'étais frappée de voir qu'on trouvait beaucoup de choses sur la chasse, le rapport au territoire, etc. Et rien sur, enfin pas grand-chose, sur la vie dans les communautés aujourd'hui. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de vide. Et donc, j'ai voulu documenter ce rapport-là. Et je me suis rendu compte, en allant vivre dans une communauté, parce que moi, je voulais vraiment le point de vue des gens avant tout, en allant vivre dans une communauté, qu'on parlait tous les jours du territoire. Mais tous les jours, c'était omniprésent dans les esprits, même si finalement, j'ai attendu plusieurs mois avant d'y aller physiquement vraiment. Et c'est cette importance-là que j'ai voulu vraiment étudier, parce que ça m'a beaucoup frappée, et j'ai postulé que c'était en fait comparable à une sorte de migration, sauf qu'ils n'ont jamais quitté leur territoire. Donc c'est un rapport en fait comme les premières, deuxième générations dans une migration. C'est un rapport à la fois de grande proximité dans l'esprit, mais pas physiquement. Et ce qui est très bizarre, puisque les communautés sont situées sur le territoire, mais ce n'est pas le territoire.
Puis quelle place justement ont les récits des aînés dans votre ouvrage?
Alors pour moi, c'était essentiel d'interroger en premier ceux qui avaient vraiment vécu ce rapport-là, parce que j'ai eu la chance de connaître les derniers représentants d'une génération qui était née en forêt, qui avait vécu en forêt, et qui, au cours de leur vie déjà adulte, avaient été obligés d'aller vivre dans des communautés de façon sédentaire. Donc c'est vraiment ce point de vue-là, les récits aussi qu'ils avaient à transmettre aux plus jeunes, parce qu'eux-mêmes étaient dépositaires des récits de leurs parents. Et donc ça a passé bien avant le fait que j'aille ensuite chercher des sources écrites qui n'étaient pas du tout pour les compléter ou les vérifier. Enfin, c'était plus pour arriver à mettre des dates, parce que dans les récits Anishinabek, quand quelqu'un vous fait un récit, il ne vous dit pas la date. Ça n'a aucune importance, les dates. On vous dit, parfois vous avez une indication précise, quand le chemin de fer est arrivé à Amos, quand l'église a été construite, quand ceci, quand cela. Et parfois, c'est quand le campement de mon ami un tel a brûlé. Puis là, vous n'avez juste aucune idée, parce que ça n'a jamais été documenté. Les sources écrites, elles sont venues après. Pour moi, c'était vraiment les sources orales qui étaient primordiales. C'était la connaissance historique des gens dans de leur façon de voir et de leur manière d'élaborer l'histoire.
C'est ce qui enrichit vraiment l'ouvrage, là. Mais justement, la mémoire collective, en fait, elle remonte jusqu'à environ quelle année pour les années, quand vous étiez sur votre terrain?
C'est très difficile à dire, parce que j'ai eu des aînés qui étaient des très grands connaisseurs d'histoire orale, qui parfois me racontaient des histoires des Nadowek. Les Nadowek, c'est les Iroquois, donc ça raconte vraiment les histoires de guerre contre les Iroquois. Et comme vous le savez sans doute, ces guerres-là ont été terminées avec la Grande Paix de 1701. Donc on a des récits qui remontaient, si je prends des dates, ça remontait donc au XVIIe siècle. Parce que là, on me racontait dans ces histoires-là, ça, à cet endroit-là, il y a eu un raid qui a été fait par les Iroquois, enfin les Nadowek qui venaient, qui volaient nos femmes, qui faisaient ceci, qui faisaient cela. C'était des récits extrêmement vivants, avec même encore les émotions qui allaient avec. C'était très intéressant. Ça ne voulait pas dire du tout qu'ils en voulaient aux Nadowek d'aujourd'hui, c'était ce genre de récits-là. Sinon, la majorité du temps, les récits commençait au moment où la compagnie de la baie d'Hudson devenait monopole d'État, donc où la compagnie du Nord-Ouest était absorbée par la compagnie de la baie d'Hudson, donc on remonte au début du 19e siècle.
Puis justement, comment est-ce qu'on arrive à jongler entre les récits oraux et les sources écrites? Est-ce qu'il y a des défis, des enjeux qui sont plus criants dans cette pratique?
Alors, c'est drôle parce que ça, c'est vraiment les historiens à qui ça pose des problèmes, parce que nous, anthropologues, ça ne nous en pose pas du tout. J'ai lu plein de... C'est même des questions qui m'ont souvent été posées par des historiens, mais en anthropologie, c'est des sources comme d'autres. On ne considère pas qu'une ressource est plus crédible qu'une autre. Ce qui m'importe le plus, moi, c'est qui a écrit, quand c'est une source écrite. Quel est le contexte de cette personne? Quelle est sa culture? Quelle est sa manière de penser? Quand j'ai un récit d'un commis de traite qui travaille pour la compagnie de la baie d'Hudson, il fait un rapport parce que ça lui a été demandé dans son contexte de travail pour rapporter certaines informations. Quand c'est un missionnaire, c'est parce qu'il doit prouver à sa congrégation et même plus largement à l'Église catholique en général, qu'il fait bien son travail de mission, sachant que les missions au 19e siècle coûtaient extrêmement cher. Donc, il devait justifier l'argent, en fait, qui était dépensé par le succès de ces missions. Donc, ça, c'est important de le prendre en compte parce que, par exemple, il y a des récits que moi, j'avais. Je trouve le pendant exact dans les archives. C'est un travail que j'ai fait plus tard aussi avec une de mes étudiantes de doctorat qui maintenant est professeure à l'UQAM, Leila Ingsetter. Et quand elle a fait sa recherche, c'était très drôle parce qu'elle, elle ne s'intéressait qu'aux sources écrites des archives. Et je lui disais, je sais exactement de quoi il parle parce que moi, j'ai eu la version orale de ça. Et là, vraiment, ça me permettait de voir que très souvent, ça concordait très bien. Alors évidemment, parfois, quand on a le point de vue du chasseur et quand on a le point de vue du garde-chasse, on n'a pas tout à fait la même vision, mais ça n'empêche que même si cette vision est différente, le récit reste fondamentalement similaire. Il y a une chose qui n'apparaissait pas, c'était pour les missionnaires, par exemple, ceux qui n'ont pas réussi à convertir. Ça, ils sont complètement absents de la littérature, on ne parle que des succès. Mmh. Et moi, j'ai les récits de gens qui n'ont pas réussi à convertir. Sur des personnes qui sont restées, par exemple, de très grands chamans. Et on ne les voit pas du tout dans les archives. Alors, c'est là que je trouve que j'ai la chance d'avoir une richesse énorme avec ces deux types de sources-là. J'en néglige aucune.
En effet, c'est vraiment... En tout cas, à la lecture là, de l'ouvrage, je crois que ça l'ajoute beaucoup, justement, au récit historique. Et donc, en fait, pour mettre en contexte peut-être les auditeurs et les auditrices... Puis pour se situer, en fait, les Anishinabek, pourriez-vous nous présenter un peu les Anishinabek, peut-être leur organisation avant la sédentarisation, justement, ou le territoire qu'ils occupent?
Alors, c'est important de le souligner parce que, si on les situe spatialement, c'est pour le Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais. En fait, ils descendaient même jusqu'à l'île de Montréal, jusqu'à ce qu'ils soient repoussés plus au nord. Et ils remontaient jusqu'au début de la baie James. Et ils étaient aussi également présents en Ontario. Donc, moi, je n'ai pas pris en compte, parce que sinon, ça aurait fait une recherche beaucoup trop énorme, mais je n'ai pas pris en compte spécifiquement ceux de l'Ontario. Je les mentionne en passant. Donc, c'était un très grand territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le vocabulaire classique de l'anthropologie, on a tendance à définir les gens par justement avant ils étaient semi-nomades et puis aujourd'hui ils sont sédentaires. Donc c'est un rapport à l'espace qui est très connoté par le fait que ce que l'Occident a valorisé, c'est la sédentarité. Or, chez les Anishinabek, on ne se présente pas comme étant des nomades ou des sédentaires. On se présente d'abord par son territoire. Donc, quand j'ai vécu à Pikogan, les gens de Pikogan, on ne dit pas les Pikoganais, on dit les Abitibi-Winnik, parce que les Abitibi-Winnik, c'est les gens de la ligne du partage des eaux, c'est les gens de l'Abitibi. Donc, c'est un endroit, c'est un territoire spécifique. Et ce terme-là, ça indique où était leur territoire, pas comment ils vivaient dessus. Et ils s'appellent toujours comme ça. Donc, c'est ça qui est tout à fait passionnant quand on regarde Kitchissagik. C'est les gens du grand lac. Kitchissagik, littéralement, ça veut dire grand lac. Donc, c'est les gens de ce grand lac-là. Ça indique leur territoire. Peu importe pour eux la manière dont ils vivaient autour de ça. Donc, c'est nous qui mettons particulièrement en avant le fait qu'ils étaient des semi-nomades, chasseurs, piégeurs, vivant en forêt. Pour eux, c'est l'importance de leur territoire qui est d'abord mise en avant.
Puis est-ce qu'on peut déceler des étapes, différentes étapes dans le processus de cette sédentarisation des Anishinabek?
Ça dépend des familles, en fait, et puis ça dépend des communautés, parce que vous avez des communautés qui ont été amenées à devoir se sédentariser beaucoup plus tôt, notamment à cause de l'avancée de la colonisation agricole, et d'autres qui sont restées semi-nomades beaucoup plus tard. Si je regarde, par exemple, la communauté de Picogan, le terrain a été acquis en 1956 par les affaires indiennes, 58 devenue réserve fédérale, réserve indienne fédérale, et les premières maisons sont construites en 1964. Alors que si vous regardez pour Kitiganzibi ou la réserve Timiskaming, les réserves sont créées beaucoup plus tôt, hein, par la loi de 1853 notamment. Et ces communautés-là, ça ne veut pas dire que les gens ont tout de suite été sédentaires, parce qu'il ne faut pas se fier aux dates de création des communautés pour affirmer que les gens devenaient sédentaires. Mais on a quand même une indication du fait qu'ils avaient déjà un lieu qui leur était destiné avec des maisons qui ont été construites plus tôt et tout ça. Mais c'est vraiment d'abord la colonisation agricole et la coupe de bois qui continue à être très forte, qui les a obligés à devenir, à devoir peu à peu, disons, abandonner la traite des fourrures qui n'était plus rentable. Et c'est la fin, je dirais, la cerise sur le sundae, c'est la création des pensionnats indiens où un des objectifs, d'ailleurs tout à fait clair, c'était de sédentariser les parents en leur enlevant les enfants, en les mettant dans des écoles, dans l'espoir que les parents arrêtent de nomadiser. Ça a fonctionné.
En quelle année, justement, les pensionnats vont ouvrir en Abitibi?
Il y a eu un seul pensionnat en Abitibi, c'est le pensionnat de Saint-Marc de Figri, qu'on appelle aussi pensionnat d'Amos, et il a ouvert en 1955. Donc c'est un pensionnat qui a ouvert tardivement par rapport à d'autres. Pour le Québec, ça fait partie des dates d'ouverture assez classiques des pensionnats. Mm-hmm. Mais je connais énormément d'anciens pensionnaires qui sont allés à Saint-Marc de Figri. En fait, les aînés d'aujourd'hui sont en grande majorité des anciens pensionnaires.
Puis il va fermer en quelle année?
Alors, il a fermé officiellement en 1972. En vérité, il a fermé en 1973. En fait, c'est des questions de changement de statut. Ça devient école privée catholique. Et puis après ça, il a fermé. En fait, parce qu'il était plus... le gouvernement fédéral ne donnait plus d'argent et qu'ils n'ont pas été capables de faire fonctionner... ils n'avaient plus l'argent pour faire fonctionner l'école. Donc les enfants ont été répartis après soit dans des écoles de rang, soit dans des écoles nouvellement créées, soit ils sont allés à Amos, à Val-d'Or, à Louvicourt, etc., etc.
Puis on peut penser aussi que les missionnaires ont dû avoir une influence dans la sédentarisation?
Ils ont en tout cas, alors pour les Anishinaabeg, de toute façon partout ils ont essayé d'avoir de l'influence là-dessus, mais les décisions étaient quand même prises par les agents des affaires indiennes. Tous les missionnaires, en fait tout le monde à l'époque, pensait qu'il n'était pas possible pour les Premières Nations de continuer à rester semi-nomades. Donc c'était extrêmement découragé par la société en général. Après ça, ceux qui intervenaient particulièrement dans la vie des Premières Nations, c'était les missionnaires et les agents des affaires indiennes. Mais toute la société, en fait, considérait que c'était un mode de vie complètement dépassé, qu'il fallait que ça se termine. Ils l'auront pas. C'était pas discuté à l'époque.
Mm-hmm. Puis comment est-ce que le processus de cette sédentarisation a-t-il été vécu par la communauté, par les individus que vous avez, je ne veux pas dire interroger, mais consulter pour la rédaction?
Mais si, je les interroge, en fait. Parfois, d'ailleurs, ça les tanne, mais ils me disent « c'est étonnant ». Alors, moi, je vais vous poser une autre question pour vous donner une petite idée. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, voilà, vous ne pouvez plus rentrer chez vous dans votre appartement. Vous allez être obligé d'aller vivre dans une tente. Je vous la donne, vous ne la choisissez pas. Puis, vous allez être obligé de vous déplacer. Et puis, je ne vous explique pas comment on la monte. Je ne vous explique pas comment on s'en sert. Débrouillez-vous. Voilà. Et puis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vivre de façon sédentaire comme vous l'avez toujours fait. Je vous interdis d'avoir des murs en dur. Je vous interdis d'avoir une salle de bain. Je vous interdis. Vous réagiriez comment?
Mal.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est exactement ça. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement parce que ils ont été obligés, en fait, de s'y mettre. Qui se sont adaptés parce que les Anishinaabeg ont, comme toutes les Premières Nations du Québec, des cultures qui sont d'une très grande adaptabilité Mais c'est très dur. C'est très dur. Donc, j'ai eu des aînés qui me disent « Oui, j'apprécie beaucoup, tu sais, de tourner le robinet puis d'avoir de l'eau au robinet. C'est super, je n'ai pas besoin d'aller la chercher moi-même. J'aime ça, peser sur un piton puis avoir de l'électricité. Mais ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi. Il n'y a pas le... Il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le feu qui crépite, il n'y a pas le, y a pas les sapinages, il n'y a pas le fait que je peux déplacer mon campement, il n'y a pas la rivière qui coule au bord, la maison, elle ne bouge plus. C'est très difficile. C'est un peu vécu comme les gens qui ont été forcés de partir en diaspora dans un pays qu'ils n'ont pas vraiment choisi parce que leur pays est en guerre et qu'ils n'ont pas décidé d'où ils allaient atterrir. Ils sont bien contents de ne pas mourir dans la guerre, mais globalement, ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Ils auraient bien voulu rester chez eux. Voilà. Je dirais que j'ai été surprise de voir à quel point les discours me faisaient penser à ces discours de diaspora, en fait. Je ne m'attendais pas à ça.
Puis comme vous l'avez mentionné, ils deviennent un peu des intrus dans leur propre territoire, en fait.
Oui, c'est fou quand même parce que... Il y a beaucoup d'histoires très personnelles. Hein, tu sais, à un moment donné, on est parti, parce que les campements, il y avait des rotations entre les campements pour pas que les ressources animales s'épuisent. Puis on est revenu, puis notre campement, il avait été tassé, il avait été détruit parce qu'ils avaient fait passer le chemin de fer. Donc c'est affreux de voir son propre habitat détruit par quelqu'un d'autre qui ne vous a même pas demandé votre avis. Vous êtes là depuis des centaines d'années et vous avez des droits et ces droits ne sont pas respectés et vous êtes complètement mis de côté. Donc, c'est traumatique. Hein.
Puis socialement, j'imagine également, il y a eu beaucoup de répercussions dans les communautés, dans les années 50, mais aussi jusqu'à aujourd'hui.
Oui, il y a eu beaucoup de répercussions. Alors, on va beaucoup parler des fléaux sociaux que sont notamment l'alcoolisme, l'abus de drogue. C'est pas uniquement ça. C'est sûr que l'alcoolisme est directement relié à la colonisation et à la sédentarisation. Y a une chose que j'ai souvent entendue dans les communautés, c'est on s'ennuie ici, il n'y a rien à faire. Quand vous êtes en forêt, dans un campement, vous vous ennuyez jamais parce que vous n'avez tout simplement pas le temps. Vous avez de l'eau à aller chercher, vous avez du bois à aller chercher, et puis si vous voulez vous nourrir, et il faut quand même que vous alliez bouger et que vous vous levez tôt le matin, parce qu'en plus, bêtement, les orignaux ne sont pas là à 8 heures du matin devant chez vous pour se faire tirer dessus. Donc, il faut se lever tôt, il faut aller les guetter, il faut aller les chasser, etc. etc. Donc, il n'y a pas du tout le même rythme de vie. Dans une communauté, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un ennui incroyable. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie ? En général, on fait des bêtises. Ce n'est pas uniquement dans les communautés des Premières Nations, c'est partout. Quand vous enlevez aux gens leur liberté, leur capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes, leur capacité à être responsable d'eux-mêmes et que vous leur enlevez toute activité, vous pouvez être sûr qu'ils vont aller mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, il y a un énorme travail dans les communautés pour retrouver la fierté d'être qui on est après avoir été écrasé. Et pour contrer justement aussi cet ennui, ce fait qu'il n'y a rien à faire. Ça marche d'ailleurs très bien dans certaines communautés. Dans d'autres, ça sera encore un peu long pour arriver à se sortir de ça, parce qu'il y a tout un travail à faire sur l'estime de soi aussi. Je suis frappée de voir à quel point, même chez les jeunes qui n'ont pas vécu ce passage-là, ça se répercute sur eux. Il y a un manque d'estime de soi qui fait qu'ils ne savent pas à quel point c'est important d'être fier de ses ancêtres et d'être fier de qui on est. C'est très triste quand vous avez 17 ans et que vous n'êtes pas fier de qui vous êtes. Donc c'est aussi un travail auquel tout le monde doit participer, dont nous, les non-autochtones aussi. Leur dire, attendez, rendez-vous compte de ce dont quoi vous êtes dépositaire, c'est génial, c'est super. Vous rendez compte à quel point il y a du monde qui aimerait ça aussi, avoir cet héritage-là et pouvoir le transmettre. Alors il faut vraiment tous s'y mettre.
En effet. Puis avant de poursuivre, on va y aller avec une deuxième pièce musicale. Maintenant avec un artiste Innu, Maïtou. On va écouter la chanson Petit Cat qui signifie lentement, tranquillement. Maïtou est auteur, compositeur, interprète de Manyotenam. Il a été connu justement quand il a sorti son premier album en novembre 2018, surnommé Petit Cat. Donc bonne écoute.
Thank you. Squat, the G-squat, but my, hey, I pull and touch my, my, she, goo, yeah. Make it, eat with, do, scope, shanty, what I do. Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de gratuit. Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, synthonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Toujours sur les ondes de, 3000, de Chiz 94.3 pour une émission de 3600 secondes d'histoire avec Marie-Pierre Bousquet, qui est anthropologue à l'Université de Montréal et directrice du programme En études autochtones. Donc, l'émission de ce soir porte sur les Anishinabek. Et avant la pause, on a vraiment parcouru un peu le passage, en fait, du nomadisme à la sédentarité des Algonquins, des Anishinabek. Et maintenant, bon, on a parlé déjà un peu, justement, des réalités contemporaines qui sont vécues dans les communautés. Mais justement, pour ce deuxième bloc, on va vraiment s'intéresser à l'occupation, en fait, du territoire, de l'espace, des espaces dans lesquels vivent les Anishinabek. Et en fait, dans votre ouvrage, vous parlez, vous dites que les Anishinabek se réfèrent toujours à trois contextes spatiaux, la ville, la réserve et le bois. Donc, en fait, quel est leur rapport avec ces espaces-là aujourd'hui, qui a sûrement changé un peu quand même?
Alors, c'est sûr que ce rapport a changé. En fait, c'est un rapport qui est différent selon les générations. Mm-hmm. Et ça dépend aussi de votre histoire familiale et le lien que vous avez pu avoir dans votre famille au territoire. Certaines familles Anishinabek n'ont plus accès à leur territoire depuis plusieurs décennies et sont parfois obligées soit d'aller dans des pourvoiries, soit d'aller sur des territoires de chasse d'autres personnes. Dans d'autres familles, vous avez un lien beaucoup plus, j'allais dire plus fort, mais C'est-à-dire, ils sont pas forcément responsables. Si vous regardez, parfois, pourquoi une famille ne peut plus aller sur son territoire, c'est parce qu'en plein milieu du territoire, il y a un énorme village où il y a carrément la ville de Val-d'Or. Donc, vous ne pouvez plus aller chasser dans les rues de Val-d'Or. Là, ça ne marchera pas. Le maire sera pas content. Vous avez des familles dont le territoire a été pas mal épargné par les coupes de bois et autres. Donc, ça va dépendre de votre famille et de votre âge. C'est sûr que plus vous êtes âgé et plus vous avez eu la chance d'aller en forêt dans votre jeunesse, même si c'était pour toutes les uniquement pour les vacances, et plus vous avez un rapport très fort où vraiment le territoire, c'est le premier espace. C'est là où on va dès qu'on a deux jours devant soi, dès qu'on a... bon, je connais pas mal de gens, par exemple, qui font du fly-in, fly-out dans leur travail. Ils vont travailler en Baie James pendant une semaine, et ensuite ils ont deux semaines, et puis après ça, ils ont deux semaines de relâche. Et bien là, les deux semaines de relâche, elles ne se passent pas dans la communauté. Dès qu'ils peuvent, ils vont sur le territoire. Vous avez d'autres personnes qui n'ont pas vraiment ce même rapport-là. Mais je dirais que donc, ceux qui sont les plus proches du territoire, ils vont même parfois appeler la communauté la ville. Et moi, ça m'a frappée parce que je suis originaire de la ville de Paris. Et pour moi, une ville, c'est Paris. Et même Montréal, je trouve ça petit. Et Québec, encore plus. Et donc, quand dans la communauté, je trouvais que pour moi, c'était un très, très petit village. Et qu'on appelle ça la ville, ça me donnait une idée, parce qu'évidemment, ça bousculait mes propres conceptions, ça me donnait une idée de l'importance du bâti dans les conceptions. C'est-à-dire que plus c'est bâti, plus c'est une ville. Puis ça dépend aussi des communautés. Vous avez des communautés qui n'ont pas accès à beaucoup de services, qui sont pas mal dans le bois. Donc là, et la communauté peut être parfois très fermée sur elle-même. Donc, parce que vous avez quoi ? Une entrée, une sortie, enfin, c'est la même. Et puis pour y aller, il faut le vouloir là. Et donc personne ne rentre dans la communauté à part les membres de la communauté. C'est-à-dire dans certaines communautés, on la traverse tous les jours parce qu'il y a une route en plein milieu et qu'il y a des camions qui passent, puis bon, il y a du monde. Puis vous avez la maison des voisins à Lockton pas loin. Dans d'autres communautés, il n'y a que la communauté, puis personne ne vient jamais, sauf les groupes scolaires une fois par année, pour venir rencontrer des Indiens. Vous voyez, bon, mais c'est tout. Donc ce rapport, il est très présent, mais c'est toujours dans les esprits. C'est-à-dire que quand on va en ville, moi j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que signifiait d'aller en ville. En ville, c'est quoi ? On va en ville à Montréal, on va en ville à Val-d'Or, on va en ville à Amos. C'est quoi la ville ? Alors quand on est en fait en forêt, sur le territoire, dans un campement, quand on va en ville, c'est qu'on retourne dans la communauté. Quand on est dans la communauté, aller en ville, c'est aller soit à Amos, à Val-d'Or, parce qu'on va faire l'épicerie. Puis parfois, quand on est à Amos et à Val-d'Or et qu'on dit qu'il faut aller en ville, c'est parce qu'on a besoin d'aller à Montréal pour aller acheter des trucs spéciaux qu'on ne trouve pas en région. Alors, déjà, là, le référent, il n'est pas le même. Donc, il faut toujours faire attention au contexte dans lequel on est, mais on n'y échappe pas et c'est toujours ces référents-là qui ressortent.
Puis au contraire, comment le rapport des Anishinabés à la forêt, au bois, a changé?
Je vous dis, ça dépend des communautés. Certaines communautés n'ont pas du tout accès au territoire. C'est très, très, très mal vécu, d'ailleurs. Donc, dans certaines communautés, on va vraiment passer par les pourvoiries ou même les campings pour arriver à garder un lien avec le territoire. Dans d'autres, ça fait partie du quotidien. Parfois, on va poser des collets à lièvres à 200 mètres derrière chez soi. Donc, ce rapport au territoire... Les gens en parlent tout le temps dans des communautés, particulièrement les communautés que je connais en Abitibi. Les gens en parlent comme la vraie vie, le moment où on se sent bien. Dire quand on va en forêt, tout va mieux. C'est la vraie vie, on va se sentir mieux. D'ailleurs, ils sont de meilleure humeur. Les gens m'avaient dit, tu vas voir, on change quand on est en forêt. Puis moi, je me suis dit, ouais, j'étais pas convaincue là. Mais vraiment, là, c'est l'effervescence, c'est... Et tout le monde est de bonne humeur et puis tout le monde s'active et tout le monde... Il y a vraiment un rapport aux autres qui échange comme si c'était plus simple, plus normal, plus agréable. C'est pas les vacances en même temps, hein, parce que je vous dis, on bosse, mais c'est quand même un peu les vacances dans le sens où c'est pas du loisir, mais c'est un moment où on va relaxer dans tous les sens du terme. On va laisser tomber le stress de la vie quotidienne et ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire non plus.
Puis par contraste, justement, comment les Anishinabés qui vivent en ville, justement, comment c'est vécu peut-être au quotidien ou...
Ben, vous avez des Anishinaabeg qui, de toute façon, sont des citadins, hein, qui, et depuis parfois une ou deux générations. Donc, c'est difficile de généraliser. Mm-hmm. Ça dépend si vous arrivez d'une petite communauté ou vous êtes encore très proche de votre territoire et que là, vous venez vivre en ville. Ben, ils font comme tout le monde, ils s'adaptent. Mais parfois, ceux qui n'ont pas l'habitude, combien de fois ça m'est arrivé, encore la semaine dernière, d'avoir des appels en disant « Écoute, je suis perdue au centre-ville ». Et puis, parfois, ils viennent parce qu'ils ont des rendez-vous médicaux. Ils viennent passer 3 ou 4 jours à Montréal, puis ils repartent après. Ça m'est arrivé assez souvent d'aller en récupérer certains complètement perdus en ville. Parce qu'ils disent « Comment tu fais pour t'y retrouver ici ?» Je dis « Comme moi, quand je suis perdue dans votre campement, tu sais, moi, j'ai l'habitude. Je connais mon territoire à Montréal. Je sais que dès qu'il y a des rues, dès qu'il y a des voitures, là, je me sens bien. Moi, je suis une citadine. Je sais comment m'y retrouver. Je sais... Bon, mais eux, non. Alors, mais d'autres qui sont citadins, ils ont appris, hein. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est difficile de faire des généralisations. Ouais. Et parfois, d'ailleurs, il y a du monde qui sont plus citadins, qui vont envier ceux qui ont encore des liens très proches avec leur territoire. En disant, ils ont de la chance parce que nous, on n'a pas pu recevoir ça.
Puis, est-ce que, justement, on parlait un peu des pensionnats et tout. Est-ce que, c'est sûr qu'il y en a, en fait, là. Quelles sortes d'initiatives qui ont été faites, disons, par les communautés pour se réapproprier peut-être certaines institutions, certains secteurs qui avaient été colonisateurs, puis qui sont toujours, mais justement, comme, par exemple, l'éducation, la santé, à Picogan, justement, quelles sortes d'initiatives, ça, qui ont été faites par les communautés pour se réapproprier un peu ces institutions-là?
Moi, je dirais que je mettrais la santé de côté parce que la santé, c'est quand même un domaine particulier et que de toute façon, il y a besoin d'avoir des services de santé. Ce sur quoi les Anishinaabeg travaillent, et puis comme toutes les Premières Nations d'ailleurs, c'est de travailler avec les professionnels de santé pour une meilleure sécurité culturelle des patients face au personnel de santé. En même temps, je suis toujours fascinée de voir à quel point... ils partent tellement de l'idée que les professionnels de santé ne sauront pas faire vis-à-vis d'eux, qu'ils sont très tolérants, mais aussi parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Mais donc, je laisserai de la santé de côté. Pour l'éducation, c'est un combat permanent. Et c'est un combat depuis longtemps, c'est un combat depuis la fermeture des pensionnats. En 1972, il y a eu un mémoire de la Fraternité des Indiens du Canada qui s'appelait l'éducation indienne. Donc, c'est l'éducation par... Le nom en lui-même, le plus long, m'échappe. La maîtrise indienne de l'éducation indienne, excusez-moi. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment l'idée qu'ils veulent se réapproprier tout le système de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un droit. Hein, c'est vraiment... Personne n'est contre l'éducation. Tout le monde dit que c'est très important. On le dit même à l'ONU. Je veux dire que tous les enfants du monde devraient aller à l'école. C'est une chance incroyable. Et c'est revendiqué comme un droit. C'est effectivement un droit, mais ça peut être aussi un incroyable instrument colonisateur. Et donc, le travail à faire, c'est la décolonisation de l'école. Mais qu'est-ce qu'on peut décoloniser? Parce qu'ils n'ont pas forcément... en tout cas, les Anishinaabeg n'ont pas la main mise sur, sur le curriculum qu'ils doivent accepter du gouvernement du Québec. À Kitiganzibi, ils ont préféré avoir une école fédérale. Comme ça, le curriculum n'est pas celui du Québec, mais curriculum fédéral. Donc, c'est une école anglophone. Donc, il y a des stratégies comme ça. Et puis, parfois, c'est par certains cours où on va essayer de pouvoir faire entrer du contenu qui va être du contenu Anishinaabe. Mais ce n'est vraiment pas encore optimal. Il n'y a jamais assez de ressources. Et puis, ils ont essayé de former aussi des professeurs qui soient Anishinaabeg. Donc, ils comprennent mieux la réalité des enfants qu'ils ont en face d'eux pour comprendre les réactions des enfants. Ils ont mis sur pied des lexiques, des tas d'initiatives. Mais c'est toujours, c'est un combat permanent. L'éducation, ça reste un cheval de bataille. Et ça fait depuis, 72, ça fait 48 ans. C'est long, là. C'est vraiment long.
Puis il y a la langue, justement, qui est, j'imagine, une priorité aussi, là.
Oui. Pour eux, la conservation de la langue. C'était en 2019, l'année internationale des langues autochtones. Il a fallu attendre 2019 pour qu'on se penche sur le fait que ces langues-là, qui ont été complètement discriminées, sont en train de disparaître. Puis là, on se dit, faudrait peut-être un peu les aider à les conserver. Oui, serait temps, là. donc là aussi, ils mettent sur pied des tas d'initiatives. des applications sur les téléphones cellulaires, des lexiques. Maintenant, vous pouvez aller même essayer de... Il y a des sites internet où vous pouvez entendre même la prononciation. Il y a des tas de trucs super qui se font en collaboration aussi avec les universités. Et puis, moi, je suis très fière de dire que dans mon université, il y a des cours d'Innu et il y a même un cours d'initiation à la langue Anishinaabe. Où le professeur n'est pas Anishinaabe, mais la locutrice qui donc fait les cours de conversation est Anishinaabe. Et donc, oui, il faut là aussi tous participer. Et je suis fière de dire qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas forcément autochtones qui s'inscrivent parce que c'est super intéressant, en fait, de découvrir la manière de penser des autres via leur langue. La langue, c'est tellement important et en tant que francophone, on est très bien placé pour le savoir.
Et à un autre niveau, quelle place occupent les systèmes religieux dans les communautés Anishinaabe?
Ouh, c'est compliqué. C'est très compliqué.
En quelques mots.
Écoutez, j'ai travaillé 10 ans là-dessus, j'ai publié plein d'articles sur les rapports à la religion. C'est tellement compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, j'ai jamais véritablement rencontré d'Anishinaabe complètement athée. Ça doit bien exister, mais en tout cas, c'est pas... C'est difficile. Il y a une concurrence terrible de différentes allégeances religieuses. Vous avez des compétitions, d'ailleurs, entre différentes congrégations. Le catholicisme est encore présent et vous avez encore du monde qui, bien que ne pratiquant absolument pas et étant pas les derniers à critiquer les missionnaires, disent « je suis catholique ». Ce qui est toujours très étonnant parce que moi, je m'attends toujours... de la part de personnes qui parfois peuvent être vraiment virulentes contre les prêtres, vont tenir un discours et dire « ouais, mais c'est quand même ma religion, j'ai été élevée dedans, etc. » Puis c'était la religion de mes ancêtres. Puis il y en a qui ne veulent rien savoir de ça, qui préfèrent au contraire s'intéresser à ce qu'il y avait avant, donc particulièrement le chamanisme, qui n'est pas une religion en tant que telle, mais qui est un véritable système de pensée mis en pratique. Et ça les dérange d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de non-autochtones qui s'intéressent à ça aussi, puis qui veulent chamaniser dans leur coin, puis il y a des stages qui coûtent des fortunes, sont organisés par des pseudo-chamanes. Et vous avez beaucoup de présence de mouvements évangéliques qui peuvent être très forts dans certaines communautés, pas du tout dans d'autres. Vous avez des témoins de Jéhovah. Alors à un moment donné, il y avait une grande offensive des témoins de Jéhovah. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quand même quelques-uns. Je ne serais pas étonnée que l'islam aussi fasse une petite apparition, puisqu'il y a des intermariages. Alors pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas des conversions? Vous avez aussi des tas de personnes qui, quand je les ai rencontrées, moi, il y a 20 ans, avaient une certaine allégeance religieuse, en ont changé, se présentent maintenant comme étant dans la spiritualité pan-indienne. En tout cas... Moi, c'est pour ça que je m'y suis intéressée, parce que souvent, j'y perds mon latin. Je me dis, ça y est, j'ai tout compris. Ça fait comme 15 ans que je travaille là-dessus. C'est bon, là. Puis non, je suis encore surprise. C'est très compliqué, le rapport à la religion, en général. Parce que si c'est pas efficace, si ça m'apporte pas de bien, c'est pas une bonne idée que je croie dans ça, finalement.
Non, voilà. Donc, les gens vont relever, en fait, de différents systèmes de croyances...
Ils expérimentent. Il n'y a pas de fermeture par rapport à ça. Contrairement à notre société où il y a pas mal de gens plutôt qui vont dire « Écoutez, moi, je ne veux rien savoir de tout ça. » J'ai jamais vu quelqu'un être mis à la porte parce qu'il avait envie d'en parler. C'est plus « On va l'écouter, là. Puis si c'est intéressant, peut-être qu'on va faire de quoi. Puis sinon, il nous aura raconté son affaire. » Et voilà. Mais je suis toujours étonnée de cette incroyable tolérance. C'est vraiment un marqueur culturel chez les Premières Nations, la tolérance. Ça m'a toujours frappée chez les Anishinaabek.
Puis d'autres initiatives peut-être qui ont été faites par les communautés, notamment sur la mémoire, sur toute l'idée du patrimoine également. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites également, peut-être à Pikogan, entre autres?
Dans différentes communautés, il y a eu beaucoup d'essais, de tas de choses. En fait, maintenant, je dirais que ce qui fonctionne... la première chose, c'est qu'on remarque, par exemple, que les jeunes, les moins de 20 ans, ont tendance à complètement oublier que la communauté n'a pas toujours été là. Et donc, ils ne connaissent pas forcément très bien leur histoire et ils n'ont pas forcément la chance de l'apprendre à l'école. Mmh. Or, comme je vous ai expliqué, ils n'ont pas la maîtrise du curriculum, donc ils ne peuvent pas enseigner leur point de vue de l'histoire dans les écoles. Donc, ils vont trouver d'autres moyens. Par exemple, ça va être faire un voyage scolaire et emmener les enfants dans l'ancien lieu de retrouvailles estivales, des choses comme ça. Parce que fondamentalement, le patrimoine, il se transmet sur le territoire. Mais ils ont beaucoup, beaucoup d'intérêt dans la transmission de l'histoire. Et c'est ça, je dirais, vraiment le patrimoine le plus fort. C'est une phrase que j'ai beaucoup réutilisée et je vais continuer à le faire parce que je l'ai souvent entendue dans les communautés, c'est on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et c'est ça, si les jeunes ne savent pas d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils vont pouvoir savoir qui ils sont et savoir où ils vont? Et c'est vraiment là-dessus que moi je collabore avec eux en ce moment-là.
Justement, parlons-en de ce projet collaboratif. Donc, en fait, c'est ça. Depuis 2015, en fait, vous travaillez avec la communauté de Lac-Simon pour une écriture de leur histoire, en fait, un projet d'histoire collaboratif. Pouvez-vous, en fait, nous parler un peu de ce projet-là? En quoi ça consiste, votre rôle dans le projet également?
Alors, il faut que je remonte un petit peu avant pour vous expliquer pourquoi ils sont venus me chercher, moi. C'est parce qu'avant ça, j'avais fait une exposition dans la communauté de Picogan. Parce que j'avais entendu la chef de l'époque dire « ben là, il faudrait que notre histoire soit écrite ». Il l'avait dit d'ailleurs dans les médias. Et donc, je me suis dit « ben moi, là, qui avais envie de faire quelque chose qui soit vraiment quelque chose qui réponde beaucoup plus à leurs désirs et beaucoup moins à mes intérêts de recherche, je vais le faire ». Donc, j'avais travaillé avec une petite équipe d'Abitibi-Winnick de Picogan pour faire une recherche. Qu'on a appelé traiteurs, robes noires et gratte-papier. Les gratte-papiers, c'est les agents des affaires indiennes, pour expliquer le type de colonisation qu'ont vécu les Anishinaabeg, ce qu'on appelle dans la typologie des colonialismes la colonisation bureaucratique. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, là, mais c'est hyper intéressant et ça a permis en fait à du monde de comprendre qu'ils n'ont pas été colonisés à la pointe de l'épée ni de la baïonnette, là, ni avec les fusils sous la tempe. Mais c'est une colonisation qui a été très insidieuse, qui a été de les faire rentrer dans un système. Et donc, pour arriver à rendre ça, à restituer des données, souvent les universitaires, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des articles et des bouquins que vont lire des étudiants et d'autres profs, hein, et qu'ils ne vont jamais arriver dans les communautés. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen de restituer les données pour que ça touche les gens. Donc, j'ai fait une exposition, puisque j'ai aussi une formation d'ethnomuséologue. C'était une exposition par panneau sur vinyle. Bon, je l'ai montré à Picogan. Et il y a du monde de Lac-Simon qui l'a vu parce qu'on l'a aussi fait montrer à l'UQAT, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et en la voyant, il y a du monde de Lac-Simon qui se sont dit « Oh, mais elle a fait un travail avec le monde de Picogan. Nous, on veut, justement, ça fait des années qu'on voudrait écrire notre histoire. » Et ils m'ont demandé d'écrire l'histoire de leur communauté avec eux, hein, parce que c'est moi toute seule, là, avec un comité superviseur. Puis moi, je trouvais que c'était un mandat énorme, là. Je trouvais que c'était compliqué. Puis j'étais surprise qu'ils me demandent d'écrire. Je leur ai dit « Oui, mais votre histoire, elle est orale. Pourquoi est-ce que vous voulez que je l'écrive ?» Ils me disent « Parce que les livres, ça dure. » Je dis « Mais vous voulez pas que je sais pas qu'on fasse un film ? Peut-être que ça serait plus adapté. » Mais non, c'est, tu sais, les films, on les perd, on les retrouve jamais. Puis ça n'a pas la même durée de vie. Il y a des livres qui sont extrêmement anciens, très, très vieux. Ils existent toujours. Donc, on veut que tu fasses un livre. Je dis « Bah ouais, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui va le lire. » Donc, bref, finalement, le travail, on l'a entrepris et on a travaillé sur des questions même très épistémologiques, hein, pour savoir comment on allait rendre ça, puisqu'ils ne mettent jamais de date. S'il faut que j'en mette, est-ce que ce ne serait pas donc une traduction dans une historiographie occidentale ? Ce serait très, très gênant, parce que là, ça serait un peu trahir le mandat qu'ils m'ont donné. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis finalement, on a décidé donc d'écrire effectivement un livre qui sera le dernier produit, de faire une exposition qui, en fait, devrait être imprimée très, très bientôt et montrée dans la communauté très bientôt. J'ai très hâte parce que j'ai comme la moitié du matériel dans mon sous-sol, puis j'ai assez hâte que ça parte dans la communauté. Et on a décidé aussi de faire une bande dessinée. Et donc, je travaille avec des bédéistes autochtones et non autochtones, dont une jeune fille de la communauté, enfin deux jeunes de la communauté, pour faire une BD en me disant, ben voilà, puisqu'il y a beaucoup de monde de la communauté qui n'est pas du tout à l'aise avec l'écriture, on trouve un moyen qui est quand même de l'écrit, qui va quand même rester pendant longtemps, ça va quand même être un livre, mais ça va être accessible à tout public. Et donc, c'est de toucher un public beaucoup plus large et montrer aussi, parce que ça, c'est important, que la recherche, c'est le fun.
C'est vraiment un projet très intéressant, mais c'est vrai que c'est d'une très grande envergure aussi.
Oui, mais en fait, ça devait durer 2 ans, puis là, on est en 2020, fait que ça fait 5 ans déjà. Puis là, je me dis qu'on va voir que c'est qu'on presse un peu le mouvement, mais je pense qu'il y en a encore pour 2 ou 3 ans, là.
Puis quelles sont les visées, les retombées visées pour la communauté?
Alors, les premières retombées, c'est que les jeunes connaissent leur histoire. Ça, c'était vraiment le premier mandat. Ils n'ont pas arrêté d'insister là-dessus. C'est vraiment, il faut qu'ils sachent d'où on vient. Il faut qu'ils sachent qui on était. Il faut qu'ils sachent qui étaient leurs ancêtres, comment on en est arrivé là. Donc, ça, c'est le tout premier mandat. Le deuxième mandat, c'est aussi que les gens qui ne sont pas autochtones et qui vivent dans la région les connaissent. Les gens de Lac-Simon savent très bien qu'ils souffrent d'un déficit d'image très grave. Quand on parle de Lac-Simon, dans les médias, c'est généralement pas pour des bonnes raisons. C'est un policier qui se fait tuer, c'est des femmes qui portent plainte contre des policiers pour viol. Enfin, c'est des choses lourdes, graves, ou alors c'est des histoires de DPJ. Enfin, des trucs affreux, pas drôles, qui donnent vraiment l'impression que ça n'est que ça. Alors que ça n'est pas que ça. Qu'il y a aussi une histoire très riche derrière et qu'il y a justement un patrimoine à transmettre. Donc c'est cette idée-là, c'est donner un autre point de vue. Voilà, ça détruira peut-être pas des images négatives, ou alors peut-être à plus long terme, mais c'est montrer leur point de vue au moins. Voilà, le rendre accessible. Et c'est difficile pour moi parce que comme je suis pas Anishinaabe, donc c'est pour ça que j'ai un comité superviseur. Et là, je leur dis, est-ce que je rends bien ce que vous avez voulu dire? Parfois, ils me disent, ben non, t'es à côté de la traque. Ou d'autres, c'est, ouais, c'est en plein ça, vas-y. Et c'est un travail de vraiment. Enfin, c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi collaboratif. C'est pas ma première recherche collaborative, mais alors à ce point-là, c'est génial. C'est fatigant, c'est long, mais c'est génial.
Puis justement, le temps file, mais peut-être pour conclure notre émission, vous en avez déjà parlé un peu, mais justement, pourquoi, selon vous, en fait, est-ce que c'est important de valoriser une histoire des Anishinaabek et des Autochtones plus largement qui est réalisée par eux-mêmes et pour eux-mêmes, en fait?
Je trouve ça extrêmement important parce que la richesse d'apprendre l'histoire, c'est la richesse des points de vue. Quand moi, je suis arrivée au Québec, j'ai été très frappée de voir la différence de point de vue sur, par exemple, un événement qui est la révolte des Patriotes, qui se faisait appeler en anglais à l'époque, quand je suis arrivée, ça fait 20 ans, les Rebels. Quand on a les rebelles et les Patriotes, c'est pas le même champ sémantique du tout, là. Les Patriotes, c'est positif, c'est fier, on est dans un mot qui parle de dignité. Puis les rebelles, c'est vraiment les délinquants, les gens qui vont en prison, etc. C'est exactement ça pour l'histoire des Anishinaabek. C'est qu'ils ont l'habitude d'apparaître comme des espèces de figurants un peu inexistants, un peu invisibles dans l'histoire générale. Et que, ben non, ils ont fait beaucoup plus que ça. Ils étaient là, ils ont aussi apporté quelque chose. Et c'est ça, si eux ne le disent pas eux-mêmes, qui le fera? Peut-être des anthropologues, mais ils seront lus que par des anthropologues. Tandis que si c'est eux qui le disent, là, ils vont toucher un plus large public. Donc, je pense que c'est absolument essentiel.
En effet. Et on va rester à l'affût, justement, de ce projet-là. On a bien hâte de voir les résultats finaux. Donc, en fait, c'est ce qui conclut notre émission pour ce soir. Merci à notre invité Marie-Pierre Bousquet d'avoir été des nôtres.
Ça m'a fait un grand plaisir.
Et si, justement, vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire des Anishinaabek, et vous voulez vous procurer son livre, je rappelle le titre, c'est « Les Anishinaabek, du bois à l'asphalte, le déracinement des Algonquins du Québec », publié aux éditions du Quartz. Et sur ce, c'était Myriam et Julie à l'animation qui vous souhaitent une très belle soirée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Chose de sino.
من عاشوش تنيولو من شيشوش تواسي نوت مش تتسن متشوغو نول تتري من اندعكوشو لقوني تشمندو كاتشي من دعكشاتشي تونو من دعكوانش تيمونو تاويم وانش تباجمونو تتري ايش بتن دعكوانش تيتونو اي عنام جندكينو تنوني تشمندو تتري من ويتشوشو نو Inu man en mano, inu ne kajano, e shemesh tagusho, mesh kunde na nibo, apuish peden man inu, apunish toa man inu, apundet toan inu, mesh kunde do emu, e she chujmo, kwej bandahan, chichino fia inu, mu eskinyo, eskinyo,
chamish kama doche, inu kajinya, eskinyo, kajato desu.
Tu adores les fromages d'ici? Bien écoute la musique d'ici. Écoute local
avec Cheese 94.3.
Faut pas travailler trop fort.